Europe 1, il est 22h. Le journal, Rémi Bossaron.
Il faut rebâtir la confiance et l'espoir. Elle ne se décrète pas, elle ne se reconquiert pas du jour au lendemain. Mais elle suppose une refondation d'un ordre politique nouveau.
Le message adressé par Emmanuel Macron aux dirigeants libanais aujourd'hui lors de sa visite à Beyrouth, il a promis l'aide de la France, mais demande aussi de profonds changements. Une demande faite en conférence de presse, mais aussi devant les habitants d'un quartier ravagé. Europe 1 était à ses côtés. Au-delà de la posture, que peut vraiment faire bouger le président français au Liban? C'est l'une des questions que nous nous poserons. Nous irons également au Mans, en France, donc, où l'émotion est vive après le décès d'un policier la nuit dernière, percuté par un chauffard lors d'un contrôle. Un chauffard qui a tenté de fuir avant d'être interpellé.
Elle est allée vers lui, elle lui a dit « Pourquoi t'es pas descendu ?» Apparemment, il aurait dit « Désolé » et elle a dit « Désolé, c'est pas assez ». Elle était très bouleversée.
L'actualité en France, c'est aussi cette chaleur caniculaire qui s'installe sur la moitié ouest du pays. La chaleur qu'il va falloir supporter dans des conditions bien particulières liées à la pandémie de Covid-19. On va rappeler ce qu'il est conseillé de faire ou pas avec un masque ou avec un ventilateur. La chaleur avec laquelle vont devoir composer également les joueurs de Lyon opposés à la Juventus de Turin demain en Ligue des Champions. C'est du football des Lyonnais, peut-être handicapé aussi par l'arrêt prématuré du championnat de France.
Le désavantage, il est pour nous sur un manque de rythme, mais on fera tout évidemment sur ce huitième de finale retour pour combler cet écart.
La météo avec Valérie Dermont à la fin de ce journal et nous parlerons donc évidemment de cette canicule et des records de chaleur qui s'annoncent. Et puis pour finir, vos deux rendez-vous du soir cet été, les conseils de lecture de Stéphane Place et la bonne idée de François Claus qui va encore une fois nous montrer qu'il y a des beaux gestes un peu partout dans le pays qui permettent de mieux vivre cette crise de manière plus solidaire.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et avant de revenir longuement sur la visite d'Emmanuel Macron donc au Liban aujourd'hui, nous allons tout de suite faire le point sur cette prise d'otage qui a débuté depuis près de 5 heures maintenant au Havre. C'est l'actualité du soir. Plusieurs personnes sont toujours détenues dans une agence bancaire, Guillaume Bier.
Oui, une prise d'otage qui est toujours en cours dans cette agence de la Brède en plein centre du Havre, près de l'hôtel de ville. Plusieurs employés sont retenus sous la menace d'un homme armé qui a fait irruption dans la banque vers 16h45. À ce moment-là, une personne a réussi à s'enfuir dès le début et a pu donner l'alerte. La police est arrivée, a bouclé le quartier, coupé la circulation des tramways à proximité, établi un périmètre de sécurité. Et au fil des heures, déjà 4 otages ont été un à un libérés par le malfaiteur qui retient toujours plusieurs personnes. C'est désormais le RAID qui a pris les commandes de l'opération. Un négociateur échange avec le preneur d'otages. Sur son profil, on sait qu'il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années qui est déjà connu de la police, qui a des antécédents judiciaires et également des antécédents psychiatriques. Jusqu'à présent, aucun coup de feu n'a été tiré, pas de blessés signalés. Les policiers du RAID continuent de parlementer avec cet homme pour tenter de faire libérer les derniers otages et de mettre fin à cette situation.
Merci Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. On continue à suivre évidemment cette situation, cette prise d'otage au Havre ce soir. Une France solidaire, mais une France vigilante. Voilà en résumé le message qu'est allé faire passer Emmanuel Macron aujourd'hui au Liban. Premier chef d'État étranger à se rendre dans le pays depuis l'explosion qui a ravagé le port et au-delà toute la capitale il y a 2 jours. Le président français a notamment annoncé la tenue dans les prochains jours d'une conférence d'aide pour le pays et l'envoi du porte-hélicoptère Tonnerre avec à son bord des médicaments, des soignants et du matériel. Mais il a aussi rappelé aux dirigeants libanais la nécessité de profondes réformes.
C'est le temps des responsabilités pour le Liban aujourd'hui et ses dirigeants. Il faut rebâtir la confiance et l'espoir. Elle ne se décrète pas, elle ne se reconquiert pas du jour au lendemain. Mais elle suppose une refondation d'un ordre politique nouveau où chacun, au-delà des divisions dans lesquelles il s'est réfugié, d'un système qui a été capturé par une corruption organisée, d'avoir la force de rebâtir une union nationale pour mener les réformes indispensables dont les Libanaises, les Libanais ont besoin, de procéder aux opérations de transparence indispensables sur le système bancaire, la Banque centrale, de le faire dans un cadre international, de coopérer avec le Fonds monétaire international. Je me battrai pour que la solidarité internationale soit là, mais je ne peux me substituer aux responsabilités d'un gouvernement souverainement élu.
Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse ce soir à Beyrouth. Mais avant cette conférence de presse, avant de rencontrer les principaux responsables politiques libanais, le président français s'était rendu dans l'un des quartiers ravagés par l'explosion, où il était très attendu. Joanna Chabas, vous étiez à ses côtés pour Europe 1.
Dès sa sortie dans une rue dévastée de Beyrouth, Emmanuel Macron était pris à partie par la foule, extrêmement en colère. Les manifestants criaient « révolution » ou encore « le peuple veut la fin du régime » et imploraient le président français.
Aidez-nous, vous êtes le seul espoir, s'il vous plaît, monsieur.
Ne donnez
pas l'argent. Non, il faut que ça aille à vous, avec les ONG, sous la supervision des Nations Unies.
Sous le chapitre 5.
La foule a ensuite applaudi Emmanuel Macron. La bousculade s'est transformée en bain de foule et le président a pris le temps de parler à chacun. Mais Michel, 26 ans, reste dubitatif face à cette promesse d'aide internationale.
On veut juste une vie décente dans ce pays. S'ils peuvent nous y aider, c'est merveilleux. S'ils ne peuvent pas, on ne veut pas de vaines promesses. On ne veut pas qu'ils soutiennent un parti, qu'ils remplacent juste un parti par un autre qui serait tout aussi corrompu.
Car ici, c'est bien ça qui est dénoncé le plus par la population, une corruption qui toucherait selon les habitants tous les partis et dont les Libanais ne veulent plus.
Alors on a entendu les attentes du peuple libanais, les intentions d'Emmanuel Macron, mais que peut vraiment le président français Adrien Beck ? A-t-il vraiment le pouvoir de changer ce système politique libanais ?
Alors le faire lui-même, non, bien sûr, hein, ce serait de l'ingérence, on vient d'ailleurs de l'entendre, je ne peux pas me substituer au gouvernement, a dit Emmanuel Macron, qui à la place s'est employé aujourd'hui à faire pression sur les autorités libanaises, et d'ailleurs de manière très directe. Pour cela, le chef de l'État a abattu deux cartes. D'abord, de manière, il faut le dire, assez peu diplomatique, Emmanuel Macron a pris l'opinion directement à témoin. À chaque prise de parole aujourd'hui, il a dénoncé la corruption, la crise morale, politique, économique, avant de demander devant les médias et donc devant les Libanais, un nouveau pacte politique aux dirigeants. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En clair, c'est réforme, 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 on vient de l'entendre, lutte contre la corruption, transparence, réforme des systèmes bancaires, de la distribution d'électricité, et j'en passe. Ce n'est qu'à cette condition que la France aidera le Liban. Et ça, c'est la deuxième carte abattue par Emmanuel Macron, celle de l'argent. Depuis déjà deux ans, Paris promet des milliards, sauf qu'ils sont conditionnés à ces fameuses réformes qui ne viennent pas. Emmanuel Macron a donc tenté aujourd'hui de donner un coup de pied dans la fourmilière. Paris risqué tout de même, tant on sait que la situation libanaise peut être inflammable.
Merci pour cette analyse, Adrien Beck, du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron a aussi réclamé l'ouverture d'une enquête internationale pour, dit-il, éviter que le doute ne s'installe. Et sur le front de l'enquête, justement, on apprend ce soir que 16 fonctionnaires du port de Beyrouth ont été placés en détention. Le dernier bilan de cette catastrophe fait état d'au moins 137 morts et 5000 blessés. Et c'est aussi dans les hôpitaux de Beyrouth que l'on peut sentir le désarroi de la population. Le docteur Ismaël Asnone est le secrétaire national du Secours populaire français. Il est actuellement en mission à Beyrouth.
Il y a toujours quelques blessés qui arrivent, mais par rapport à hier, ça a diminué, le flux, ça a diminué beaucoup. Et là, maintenant, on arrive à mieux voir les choses et à maîtriser. Mais les médicaments sont chers par rapport à la population. Et il y a le gros problème, c'est qu'il y a pas mal de matériel et des médicaments qui étaient stockés sur le port et qui ont été détruits. Si on va résumer les choses, il y a un flux très très important qui a saturé les hôpitaux, plus que 4 000 à 5 000 blessés, et la quasi-majorité des hôpitaux, ils ont utilisé leur stock pour faire le nécessaire, et maintenant, grâce à l'aide humanitaire internationale, on commence à avoir un peu de matériel, etc., mais il faut réfléchir dans les jours à venir comment on peut faire face à cette situation.
Le témoignage du docteur Ismaël Asnone, secrétaire national du Secours populaire français, il était interrogé par Damien Mestre.
Europe 1, le journal de la nuit. Rémi Botsaron.
L'émotion au Mans, où s'est rendu aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Un policier de la brigade de nuit a été tué dans l'exercice de ses fonctions la nuit dernière, victime d'un chauffard alcoolisé. Tout s'est passé au cours d'un simple contrôle. Le chauffard a tenté de fuir. Le fonctionnaire a été traîné par le véhicule et projeté sur un mur. Il est pratiquement mort sur le coup, Charles Guyard.
Oui, et nombreux sont les habitants de cette artère du sud-ouest du Mans à avoir été brusquement réveillés vers 4h du matin, comme Julie.
J'ai entendu un crissement de pneus et ensuite un gros boom et je me suis levée, j'ai ouvert les volets. Voilà.
De sa fenêtre, la jeune femme peut voir une Mercedes noire, l'arrière encastrée dans la porte du garage d'en face après un violent tête-à-queue. 30 mètres plus haut dans la rue, au pied d'un petit muret, les secours s'activent. De son balcon, Benjamin assiste à la scène.
Il y avait déjà les pompiers. Je les ai vus fumasser, donc je pense qu'il n'était pas mort, je ne sais pas. Et non, une policière qui pleurait, ça devait être à mon avis sa coéquipière, je pense. J'ai entendu, oui, un policier qui disait « policier au sol ».
Le policier au sol, c'est Éric Manroy. Sa tête vient de heurter violemment le muret où il aurait été projeté après avoir été traîné sur plusieurs mètres par la voiture qu'il était en train de contrôler. Après l'accident, le conducteur a lui tenté de s'enfuir à pied, escaladant le portail d'un garage automobile voisin, où il a finalement été interpellé, comme le raconte Tony.
Il ne voulait pas se laisser faire au départ. Ils l'ont tiré par les pieds, face contre terre, main dans le dos, menottes.
À ce moment-là, l'une des collègues du brigadier décédé s'est approchée du suspect.
Elle est allée vers lui. Elle lui a dit « Pourquoi t'es pas descendu ?» Apparemment, il aurait dit « Désolé ». Et elle a dit « Désolé, c'est pas assez ». Elle était très bouleversée.
Âgé de 26 ans, le conducteur a déjà été condamné à 2 reprises pour conduite en état d'ivresse et outrage et rébellion. Quant à Éric Manroy, originaire d'Alençon, il avait 43 ans, il était marié et père de 3 enfants.
Merci Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'ouest de la France. Il fait chaud en France, alors c'est l'été, c'est à peu près normal, mais cette fois c'est une chaleur caniculaire qui touche la moitié du pays. 45 départements placés en alerte entre le sud-ouest et les Hauts-de-France. La tentation est donc grande sans doute de mouiller son masque ou de se mettre face à un ventilateur pour mieux supporter cette chaleur. Eh bien c'est non, deux fois non, il faut penser aux risques épidémiques. Virginie Salmen, rappelez-nous les bons gestes.
Oui, canicule plus coronavirus, alors il va falloir manier le brumisateur avec précision. La règle numéro 1, c'est ne surtout pas mouiller son masque en se rafraîchissant. Si votre masque est humide, il n'est plus efficace, il faudra donc en changer. Autre règle d'or, justement pour les ventilateurs, on peut l'utiliser sans problème si on est seul, donc une personne devant un ventilateur, oui, mais dès que quelqu'un entre dans la pièce, on l'arrête. Il ne faut surtout jamais mettre des ventilateurs dans un espace collectif fermé. Si jamais il y a un malade asymptomatique, des gouttelettes peuvent se retrouver projetées dans toute la pièce. Donc surtout pas de ventilateur au bureau, en open space. Vous allez me demander, et la climatisation? Eh bien, il n'y a pas de contre-indication selon le ministère de la Santé, à condition d'avoir des filtres performants, c'est-à-dire avec la norme HEPA, donc norme haute efficacité, et puis si l'installation est entretenue régulièrement, sinon mieux vaut s'en passer. Même chose pour la VMC, la ventilation mécanique, on peut la laisser, mais si vous avez un programme de recyclage de l'air, en revanche, il vaut mieux le couper.
Et merci pour tous ces bons conseils, Virginie Salmen. Et le masque, justement, c'est un nouvel accessoire avec lequel il va falloir composer pour soigner sa tenue sur le port de Saint-Tropez. À partir de samedi, le port du masque sera obligatoire dans le centre de la fameuse cité balnéaire, bien connue pour ses soirées nocturnes. Et c'est justement l'afflux de touristes et les distanciations sociales difficilement respectées qui justifient cette décision, selon la préfecture du Var. Le masque, il faudra aussi porter à l'université à la rentrée. Les universités françaises qui sont fermées depuis la mi-mars pourront rouvrir à la rentrée. Mais le port du masque en salle de cours sera fortement recommandé, annonce du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est une conséquence également inquiétante de ces fortes chaleurs. Un gros fragment du glacier des Grandes Jorasses sur la partie italienne du Mont Blanc menace de s'effondrer. On parle tout de même d'un morceau de glace de 500 000 mètres cubes qui est sur le point de se détacher au-dessus de la commune de Courmayeur dans la région du Val d'Aoste. Quelques dizaines d'habitants et des touristes ont été évacués parce que le danger est bien réel, selon Christian Vincent. Il est chercheur au CNRS, spécialiste des glaciers.
Ah oui, le danger est réel, même si on ne sait pas bien ce qui va se passer. On avait eu à peu près la même situation il y a 2 ans, et puis le glacier avait fini par décélérer. En fait, le problème, c'est que les causes sont mal identifiées, mais elles pourraient être liées à la circulation de l'eau dans le glacier, avec la formation d'une crevasse de 20 mètres de large. Et ces 500 000 mètres cubes de glace, ils pourraient se détacher d'un seul coup et provoquer une gigantesque avalanche de glace dans la vallée. Donc ça fait quand même à peu près 150 piscines olympiques, vous imaginez. Dans cette vallée, il y a une route qui est extrêmement touristique et il y a quelques habitations. Donc effectivement, là, c'est des vies humaines qui sont en jeu.
Christian Vincent, chercheur au CNRS, spécialiste des glaciers. Les autorités italiennes préviennent effectivement que cette chute pourrait causer des dégâts considérables dans la zone. Le dernier hommage à Gisèle Halimi ce matin au cimetière du Père-Lachaise à Paris. C'est là que la célèbre avocate militante du droit des femmes, décédée la semaine dernière, a été inhumée, entourée de ses proches et de nombreux amis, des militantes de la cause féministe également, et bien sûr des avocats. Parmi les personnes présentes, Annick Cogent, journaliste au Monde, qui s'apprête à sortir justement un livre coécrit avec Gisèle Halimi, qui relate ses grands combats.
C'était l'hommage à une femme exceptionnelle, à une héroïne française. Nous, petites filles, nous n'avions pas beaucoup d'héroïnes dans nos livres d'enfants, il n'y en avait pas. Et là, on en a une formidable, parce que c'est l'image de la combativité, de l'absence totale de résignation. Elle a gagné de grandes batailles, on a parlé de l'avortement, la loi sur le viol, etc. Elle a défendu des gens vaillamment, en défendant des principes, des valeurs, parce qu'elle avait cette caractéristique, en utilisant son métier, le droit de parler et de s'adresser à l'opinion publique et de faire bouger les choses. Quel culot et quelle ambition, mais c'était ça qu'elle voulait faire. La relire, la réécouter, je pense qu'elle nous inspire et ouais, je vous disais qu'elle nous oblige, elle nous oblige à continuer.
Le bel hommage d'Annick Cojan à Gisèle Halimi au micro de Caroline Baudry. Et l'entourage de Gisèle Halimi précise qu'un hommage national est envisagé après la période de congé. Journée de tension entre Facebook et Donald Trump. D'abord, le réseau social a décidé de retirer du compte du président américain une vidéo dans laquelle il explique que les enfants sont presque totalement immunisés contre le Covid-19. Facebook explique que cette vidéo enfreint ses règles sur la désinformation autour de la pandémie. Et ce soir, dans un tout autre domaine, le géant californien annonce qu'il a démantelé un réseau de comptes faisant la promotion de Donald Trump depuis la Roumanie, des centaines de faux comptes créés visiblement dans le cadre de la campagne présidentielle. Le football et l'Olympique lyonnais qui tentera demain de décrocher son ticket pour le tournoi final de la Ligue des Champions. Ce sera sur le terrain de la Juventus de Turin après un match aller gagné 1-0. Il y a sans doute un bon coup à jouer pour les joueurs de Jean-Michel Aulas, Cyril de la Moinerie.
Oui, la Juve a perdu ses deux derniers matchs avec une défense friable, 5 buts encaissés. C'est sans doute le bon moment pour Lyon d'aller affronter la mythique équipe italienne. Même si, attention, le championnat italien a repris, contrairement à la Ligue 1. La vieille dame a joué 14 matchs depuis le 22 juin. Elle a remporté son 9e Scudetto de suite et s'est permis le luxe de faire opposer sa méga star Cristiano Ronaldo lors du dernier match, même si l'autre gâchette, Paolo Dybala, est lui incertain. Lyon a donc moins de matchs dans les jambes. Mais le club rodanien a des ressources, explique l'entraîneur Rudy Garcia.
Le désavantage, il est pour nous sur un manque de rythme, mais on fera tout évidemment sur ce huitième de finale retour pour combler cet écart. Je dirais qu'on a montré qu'on était bien physiquement sur la finale de la Coupe de la Ligue et les 120 minutes de Paris. Donc ça devrait, je l'espère, nous servir pour la rencontre de demain.
Conférence de presse surréaliste qui s'est déroulée en visioconférence afin d'éviter toute transmission du virus. Les entraîneurs et joueurs au rez-de-chaussée dans une salle et les journalistes en tribune. Les images étant diffusées sur les écrans géants de l'Allianz Stadium. Stade qui sonnera creux demain comme tous les matchs ici en Italie depuis la crise du Covid-19. Cette rencontre se déroulera à huis clos.
Cyril Delamorenet du service des sports d'Europe 1. La météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Marlène Duret, nous l'avons tous ressenti aujourd'hui et ce n'est pas fini. La canicule arrive, 45 départements placés en alerte orange.
Vous l'avez dit Rémi, les températures s'envolent, 35 à 40 degrés en général, voire plus localement dans le sud-ouest. Et des nuits où l'on avoisinera les 20 degrés et plus, et ce durant plusieurs jours. 45 départements, cela concerne les Hauts-de-France, tout le bassin parisien, l'ouest de la Champagne-Ardenne et de la Bourgogne, la Haute-Normandie, l'Orne, une grande partie du centre Val-de-Loire, le Limousin, l'est du Poitou, la Dordogne et le Midi-Pyrénées. Quelques températures maximales attendues pour demain, 41 degrés à Auch, où l'on pourrait égaler le record de 2003 d'ailleurs, 40 degrés attendus à Bordeaux et Toulouse, 39 à Rennes, Tours, 38 à Orléans, 37 à Paris, on attend 36 à Clermont-Ferrand et Lyon, 29 à 33 près de la Grande Bleue, la minimale 27 à Brest. Côté ciel, il fera encore beau, ciel bleu azur à quelques exceptions près, ça va bourgeonner sur l'ouest des Pyrénées, une ondée, un coup de tonnerre est possible et quand la masse d'air est aussi sèche, eh bien les précipitations s'évaporent avant de toucher le sol. À noter aussi quelques entrées maritimes sur le littoral du Languedoc-Roussillon.
Merci Marlène. Durée.
Europe 1.
Et face à la chaleur, il y a une solution, c'est de rester chez soi, à l'ombre, tranquillement, et de prendre un livre sur les bons conseils de Stéphane Place qu'on retrouve dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Rémi Botsaron sur Europe 1.
Un livre pour l'été, comme tous les soirs, on retrouve Stéphane Place pour un conseil de lecture en collaboration avec la librairie Mola, bien connue des Bordelais. Au menu ce soir, un polar, et un polar signé par un auteur que l'on connaît déjà bien, puisque l'on parle ce soir du dernier ouvrage de Bernard Minier.
Huitième roman qui marque le retour d'un personnage attachant, ce flic toulousain Martin Servaz que nous avions découvert en 2011 dans Glacé, le livre qui a révélé il y a 9 ans le talent de plume d'un douanier devenu écrivain, Bernard Minier, aujourd'hui l'un des maîtres du genre en France. La Vallée, c'est le titre de son dernier polar qui nous entraîne dans les Pyrénées. Une série de meurtres, des mises en scène macabres absolument terrifiantes. La population ne tarde pas à vouloir organiser sa propre police, une milice d'autodéfense à Aiguevive, d'autant que cette petite ville se retrouve coupée du monde à cause d'un éboulement. Roxane Lemignon est libraire chez Mola.
Il y a un éboulement sur une route qui fait que personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Et le village, en fait, se retrouve coincé avec le meurtrier. C'est intéressant de voir comment les personnages vont réagir au fait qu'ils soient enfermés avec un meurtrier qui pourrait très bien être leur voisin. Et aussi, Servaz, qui se retrouve, pareil, dans cette vallée. Il ne peut pas contacter sa famille, il ne peut pas sortir. C'est un peu un confinement dans les Pyrénées.
Comme dans Glacé, le premier roman noir de Bernard Minier, on retrouve cet univers de montagne. Mais, et c'est l'un des aspects très intéressants de ce nouveau récit, la vallée est aussi le reflet des changements profonds, des fractures, comme le souligne l'auteur, qui caractérise la France d'aujourd'hui.
On a une communauté qui est enfermée, avec un assassin qui commet des meurtres épouvantables en son sein, qui veut faire justice elle-même, qui n'a plus confiance ni dans la gendarmerie, ni dans la mairesse. Cette population, la confiance est brisée entre elle et ses représentants, entre elle et l'autorité. Et ça, évidemment, c'est à l'image de la crise économique, sociale en 2019, qui était celle des Gilets jaunes. Et c'est de ça aussi que je voulais parler, de cette époque dans laquelle on vit. On est dans une culture de l'émotion et de l'affrontement permanent. On a des oppositions de plus en plus stériles à force d'excès, des réseaux sociaux où la menace, l'insulte et l'opprobre ont remplacé le débat. Il y a une forme de négation du réel. On a l'impression que le réel est petit à petit balayé, écarté et remplacé par des fictions qui s'opposent et qui s'affrontent. Et c'est ça aussi dont parle la vallée. Cette société qui n'arrive plus à se parler, qui n'arrive plus à dialoguer, où finalement les faits n'ont plus grande importance. Ce qui importe, c'est l'idéologie de chacun.
Alors bien sûr, au fil de ces 500 pages, on ne va pas en dire trop, mais Bernard Minier fait référence parfois aux enquêtes précédentes de son personnage principal, Martin Servaz. Mais ce n'est pas un souci pour le lecteur qui n'aurait pas lu ses livres antérieurs à la vallée. Rien ne vous empêche de plonger directement dans cette intrigue qui, je vous le garantis, va vous tenir éveillé et vous faire frissonner jusqu'à la fin.
Frissonner, ça peut faire du bien en ces temps de canicule. Merci à Stéphane Place depuis Bordeaux, passionné de lecture et correspondant dans le Sud-Ouest pour Europe 1. Autre rendez-vous estival sur Europe 1, vous le savez, tous les soirs, la bonne idée. Nous allons retrouver François Claus pour saluer une initiative, une action quelque part en France qui permet de vivre un peu mieux cette crise sanitaire que nous traversons tous. Ce soir, François Claus s'intéresse au bateau du cœur. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de gestes en faveur des soignants. Là, c'est un Niçois, Jean-Luc Guittard, qui propose à ses soignants des croisières sur son catamaran.
Bonsoir Jean-Luc Guittard.
Bonsoir, bonsoir.
Vous avez un bateau à Menton, vous êtes un passionné de la mer et vous vous êtes dit pourquoi je ne le partagerais pas avec toutes ces personnes qu'on applaudissait, notamment le soir sur les balcons, en leur offrant une croisière en mer ou un petit tour en mer. Ça a formidablement bien marché, racontez-nous.
Oui, c'est exactement ça. Taper sur les casseroles, c'était déjà bien. Et essayer de proposer autre chose, c'était effectivement ce qui est arrivé, de pouvoir mettre ce bateau à disposition, moi également, et de lancer cette initiative qui a explosé. C'était un véritable raz-de-marée. Et pour pouvoir le répondre à cette demande énorme, j'ai essayé de fédérer des propriétaires de bateaux qui m'ont suivi un petit peu sur tout le littoral. On est plus d'une centaine maintenant. À balader nos soignants, personnel hospitalier, qu'est-ce qu'on a, des employés d'EHPAD aussi, qui viennent se détendre avec nous sur l'eau.
Sur des grandes balades, c'est des mini-croisières ou c'est des sorties sur une demi-journée ou...
Effectivement, c'est de la sortie soit à la journée, et moi je fais beaucoup de sorties pour deux jours, pour leur permettre de réaliser ce qu'est cette dimension d'un mouillage en pleine mer, et passer une nuit à bord. Ça fait plaisir à beaucoup et on refait le monde à notre façon tous ensemble.
Oui, refaire le monde sous un ciel totalement étoilé, vierge la nuit, au lever du
Exactement.
Sol et le matin en pleine mer, on l'imagine très bien. Alors ça marche tellement, tellement bien qu'aujourd'hui vous avez des milliers de demandes, on m'a parlé de 7000 demandes à peu près, et que vous n'avez plus assez de propriétaires de bateaux disponibles pour les offrir toutes.
C'est un peu le problème, effectivement. C'est que d'ailleurs tous ces relais sensationnels que vous me proposez de parler des bateaux du cœur nous amènent effectivement un exponentiel soignant énorme. À chaque fois qu'il y a une petite émission ou une grande émission, ça amène 100 soignants dans la demi-journée. Par contre, les propriétaires de bateaux...
Il faudrait que ça amène 100 propriétaires de bateaux en plus.
J'aimerais bien que ce qu'on inverse, c'est qu'effectivement, j'ai 100 propriétaires de bateaux qui rentrent.
Eh bien, écoutez, on leur lance l'appel ce soir. Vous êtes à Menton. Il faut qu'ils aillent sur... vous nous redonnez la plateforme, Jean-Luc Guittard.
Oui, alors, les-du-6-bateau-du-6-cœur.fr.
On l'a compris, les-bateaux-du-cœur. Et allez, offrez un tour en mer aux soignants. Ils l'ont mérité, ils en ont besoin. C'était la belle idée et on voulait la saluer sur Europe 1 ce soir avec vous, Jean-Luc Guittard.
Belle idée, effectivement. Cette solidarité qui s'exprime dans le sud de la France pour les soignants. C'était François Claus. Dans un instant, on va jeter évidemment un œil sur les unes de la presse, comme tous les soirs, pour savoir ce qui vous attend dans les kiosques. Il sera encore une fois beaucoup question du Liban, évidemment. Mais d'abord, comme tous les soirs également, une petite touche de musique délicate et douce ce soir. C'est Louane et c'est ce titre explicite, Donne-moi ton cœur. Les unes de la presse de demain, ce que vous allez retrouver dans votre kiosque ou sur les versions numériques, peut-être évidemment le Liban encore très présent. À la une de l'Humanité, par exemple, Liban, la crise de trop, avec encore une fois une image spectaculaire de ce rue dévastée de la capitale libanaise Beyrouth, le chaos de Beyrouth, écrit l'Humanité, alors que West France titre et on a l'impression d'un champ contre champ quand on voit la photo en une de West France, encore une fois une rue délabrée, des habitants qui équipés de balais, qui tentent de sauver ce qu'ils peuvent, de nettoyer ce qu'ils peuvent dans cette rue, la colère des Libanais, esselé, titre West France en une, et qui souligne que pour venir en aide aux plus démunis, des centaines de bénévoles accourent de tout le pays pour les aider, donc, dans la capitale libanaise. Le Figaro également, sur le Liban, et Macron, qu'on voit en photo, cette fois, au chevet du Liban, meurtri, Macron appelle ses dirigeants au sursaut. Macron, que l'on voit aux côtés du port éventré de Beyrouth. Macron également, une de Libération. Mais ça n'a rien à voir. On parle du recyclage écolo de Macron sur la une de Libération. La majorité tente de reprendre l'avantage en opposant son progressisme écologique à une vision punitive et décroissante que représenteraient les Verts, explique Libération. Alors que c'est un paradoxe, on trouve dans le même temps sur la une de l'Opinion le revirement du gouvernement, c'est le titre exact, betterave, le gouvernement revient sur la loi biodiversité. C'est un élément important de la soirée, effectivement, le choix du gouvernement d'autoriser de nouveau l'utilisation d'un insecticide pour lutter contre les pucerons et la jaunisse qui ravagent en ce moment les cultures de betteraves sucrières et qui revient donc sur cette loi de biodiversité. C'est un choix qui fait beaucoup parler chez les défenseurs de l'environnement, évidemment. 22h30, passez de quelques secondes sur Europe 1 et vous retrouvez évidemment tout de suite la Libre Antenne avec vous, Sabine Marin. Bonsoir.
Bonsoir Rémi.
Et bonne émission à vous.
Merci, à tout à l'heure, 23h pour les prochaines infos.